Nous allons aujourd'hui aborder de façon transversale, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, l'un des problèmes que je crois être les plus fascinants de toute l'histoire du christianisme, c'est le problème des images. Ce soir, nous ne donnons pas en cours d'histoire de l'art. Je n'en ai pas la compétence, je sais que le domaine est passionnant, mais ce n'est pas du côté de l'histoire de l'art que je vais vous inviter. Je vais essayer de vous présenter un chapitre de l'histoire de la théologie. Et alors commençons par cette merveilleuse histoire du roi Abgar. Dans son histoire ecclésiastique, Eusèbe de Césarée raconte un épisode. Vous vous rappelez qu'Eusèbe écrit son histoire dans le deuxième tiers du IVe siècle. Un roi d'Édesse, c'est-à-dire une ville qui se trouve aujourd'hui sous le nom d'Urfa, aux confins de la Turquie et de la Syrie, un roi d'Édesse entend parler de Jésus. Et il écrit à Jésus. Bon, alors je ne sais pas très bien comment on s'adresse à Jésus quand on lui envoie un courrier postal, « Monsieur le Sauveur, cher Jésus ». Voici comment fait le roi Abgar. « Abgar, fils d'Ushamas, toparque, c'est-à-dire monarque du lieu, à Jésus, bon sauveur, manifesté au pays de Jérusalem, salut. » Et voici que le roi confie à son archiviste, dont vous allez voir qu'il a d'autres talents, d'apporter la lettre à Jésus. Que dit cette lettre? En substance, ceci. « J'ai entendu dire, bon sauveur, que tu sais guérir toutes les maladies. Et j'ai aussi entendu dire que tu as quelques problèmes à Jérusalem avec les Juifs. Comme il se trouve que je suis très malade et que je suis hospitalier, je te propose de venir t'établir à Édesse. Tu pourras ainsi me guérir. » Bon, alors, on ne sait pas si la lettre se termine par une formule du genre « Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, bon sauveur, etc. » Toujours est-il qu'il attend une réponse de Jésus. Mais voilà comment on faisait à l'époque. On amène un courrier et le porteur du courrier attend la réponse sur place. La réponse de Jésus n'est pas écrite. Il fait savoir oralement à l'archiviste que, en substance, et je traduis en termes peut-être un peu trop administratifs, les obligations de ma charge m'interdisent de venir à Édesse, et d'ailleurs, je devrais bientôt retourner auprès de mon père, mais je vous enverrai ensuite un disciple qui va vous guérir. Voilà cet épisode raconté par Eusèbe. Il se trouve que les savants ont connaissance d'un manuscrit en syriaque qui date probablement du 5e siècle et qui est conservé à Saint-Pétersbourg. Et vous verrez, quand je prononcerai à nouveau le nom de Saint-Pétersbourg, c'est qu'on arrivera tout à la fin du cours à propos de toute autre chose. Ce manuscrit est à Saint-Pétersbourg et on y lit en particulier ceci au moment où Jésus donne sa réponse au roi Abgar. L'archiviste ne reste pas inactif. Lisons le texte A. Puisque Jésus lui parlait ainsi, l'archiviste Hanan, qui était peintre du roi, mit en peinture l'image de Jésus avec des pigments de choix et la rapporta au roi Abgar, son maître. Quand celui-ci la vit, il la reçut avec grande joie et la plaça avec grand honneur dans l'une des pièces de son propre palais. Et l'archiviste Hanan raconta à Abgar tout ce qu'il avait entendu dire par Jésus, car il avait consigné dans ses livres les paroles de ce dernier. Et vient maintenant toute une doctrine qui est racontée, c'est ce que Jésus dit directement, alors des propos qui s'insèrent tout à fait dans la théologie des 5e et 6e siècles, mais peu importe ici. De quand date cette légende? Du début du 4e siècle, puisque Eusèbe la connaît, au 5e siècle, on a pu ajouter des éléments successivement. En tout cas, la présence de cette légende indique qu'à Édesse, au 5e siècle, il existait, de toute évidence, un portrait du Christ. On ne dirait pas dans le texte que le peintre a peint directement l'image de Jésus s'il n'y avait pas eu un portrait dont on ait eu besoin de dire l'histoire. Ceux qui diffusent cette légende au 5e siècle ne perçoivent évidemment pas la contradiction historique flagrante qu'il y a avec la réalité du 1er siècle. Au 5e siècle, on s'intéresse beaucoup à l'apparence physique de Jésus, mais au 1er siècle, cet intérêt pour l'apparence de Jésus est parfaitement nul. Je vous défie de trouver dans le Nouveau Testament le moindre texte, la moindre allusion qui vous permettrait de dire si Jésus était grand ou petit, s'il était maigre ou gros, s'il était chauve ou pas, même s'il était barbu, s'il avait des yeux ou des cheveux de telle couleur. Cela, les contemporains n'en soufflent mot. Alors que pour certains héros de la Bible hébraïque, mettons David, on a quelques renseignements sur son apparence. Pour Jésus, le silence est total. D'ailleurs, les premiers siècles ne s'intéressent pas à l'apparence de Jésus et on assistera par la suite, nous allons le voir, à une évolution considérable. Voilà donc pour planter le décor de la problématique de l'image. Le deuxième chapitre que je vous propose d'aborder, je l'ai intitulé « L'ambiguïté de l'image ». Les religions, nous ne le savons que trop, entretiennent avec l'image des rapports qui sont parfois très favorables, parfois totalement hostiles, parfois ambigus. C'est ce que nous allons voir maintenant à grands traits. Mais il y a des religions qui ne connaissent pas les images. Alors techniquement, on les appelle des religions aniconiques. L'animisme en Afrique ne représente pas l'image du dieu. Dans le bouddhisme non plus, la représentation de ce qu'on appellerait le divin, qui n'existe même pas en tant que tel, n'a aucun sens. Dans le judaïsme, dans l'islam, on ne représente pas Dieu. Ce que je vous dis ici est parfaitement schématique et j'en ai bien conscience. Parce que le judaïsme interdit, bien sûr, c'est le décalogue, de se faire de Dieu une représentation, une image taillée. Mais les spécialistes nous disent maintenant que cet interdit a son origine à une époque relativement tardive, à l'époque de l'exil à Babylone ou de la période qui suit. Et en particulier dans les siècles antérieurs, antérieurs au VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on trouve bel et bien des représentations plastiques sous forme de statuettes de Yahweh, le Dieu, est représenté avec la déesse Asherah qui va avec lui. Dans le monde cananéen, on a de telles représentations. Bon. À l'inverse, vous avez des religions qui sont tout à fait iconiques, dans lesquelles on croule sous le poids des images. C'est le cas, par exemple, de l'hindouisme. Il y a des myriades de dieux dans l'hindouisme. Eh bien, tous ces dieux, on les représente et on les représente de façon picturale. Le problème du christianisme, c'est que, avec les autres monothéismes, avec le judaïsme et l'islam, ils considèrent Dieu comme étant transcendant et donc, théoriquement du moins, irreprésentable. Je ne peux pas représenter par quelque chose accessible à mes sens ce que je postule être transcendant. Et pourtant, il y a un problème. Parce que si, comme le dit l'évangile de Jean dans le chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu, c'est-à-dire que Dieu échappe à toute perception humaine, eh bien, Dieu fils unique, c'est comme ça que parle l'évangile, Dieu fils unique, qui est dans le Père, nous l'a dévoilé. Jean 1, verset 18. Et puis, l'Épître aux Colossiens dit que le Fils est l'image de Dieu invisible. Donc, si ce Fils est visible, il donne à voir quelque chose du Dieu invisible. S'il est visible, ce Fils, il est aussi représentable. Et en même temps, s'il est Dieu, il échappe à toute représentation. Donc, voyez, le christianisme doit se débattre avec ce problème. C'est un problème qui est lié avec la compréhension de Dieu trinitaire. Est-ce que l'on peut représenter Dieu? Et c'est peu dire qu'au sein du christianisme, on a entendu des voix parfaitement opposées sur cette question-là, qui se sont défendues avec conviction, avec virulence, dans un sens ou dans l'autre. Donc, le christianisme, premier point, entretient un rapport ambigu face à l'image. Mais s'il y a un rapport ambigu, c'est que l'image elle-même est ambiguë. Alors, j'ai inventé, pour essayer d'expliquer les choses de la façon la plus simple possible, recours à quelques symboles, ça va faire un tout petit peu de logique. Appelons l'image un petit « i ». Vous avez une image, c'est cela. Cette image est une réalité en tant que telle. une carte postale, une peinture, une statue, c'est en tant que telle une réalité. Donc cette image, c'est quelque chose qui est dans le monde réel. Mais en même temps, cette image, ce petit i, renvoie à une réalité qui n'est pas en elle, renvoie à une réalité extérieure que je propose ici de schématiser par la lettre R majuscule. Et tout à l'heure, c'est grâce à ces sigles que j'expliquerai un passage important dans le texte de la Somme de théologie de Thomas. Donc, vous voyez, l'image, c'est deux choses. C'est une chose matérielle en tant que telle, et en même temps, c'est une chose qui renvoie au-delà d'elle-même à une autre chose, la chose représentée. Bon. Et puis, on sait bien l'image, la chose de l'image et la chose représentée par l'image, ça n'est pas identique. C'est assez évident. La carte postale du Cervin n'est pas le Cervin. Bien. Cela étant dit, il y a un rapport très étroit, selon les cas, plus ou moins étroit, entre l'image, enfin, la chose représentée sur l'image et la chose telle qu'elle est dans la réalité. Voyez, si vous dites, je suis allé au Louvre la semaine dernière et j'ai vu la Joconde. Vous désignez par le nom de la personne que Léonard de Vinci a peinte le tableau de cette personne. Vous n'avez sans doute pas vu Mona Lisa, mais vous avez vu celle qu'on appelle la Joconde, et ce nom, la Joconde, est transféré sur le tableau. De la même façon, si vous considérez qu'il n'y a rigoureusement aucun rapport entre ce qui est représenté matériellement et puis ce qui figure dans la réalité, eh bien, je vous suggère, par exemple, de prendre, pardonnez-moi cet exemple qui est politiquement très peu correct, prenez une grande photo de Kadhafi, vous allez à Tripoli, et sur la place publique, vous brûlez cette photo de Kadhafi en disant ben, j'ai simplement brûlé une feuille de papier, où est le problème? Revenez ici pour nous raconter ce qui se sera passé. Hein? Le Conseil fédéral enverra peut-être un avion pour vous si vous. Mais vous voyez bien qu'il y a un rapport entre le papier et la réalité. D'ailleurs, les dictateurs le comprennent bien, puisqu'ils n'autorisent pas qu'on aille publiquement brûler leur image. Et c'est toute cette ambiguïté de l'image qui marque le contexte dans lequel on se situe ici en matière de christianisme. Alors, deux attitudes différentes. Première attitude, c'est l'hostilité aux images. La deuxième, l'attitude de respect face à l'image. Essayons de les caractériser en quelques mots. L'hostilité aux images. Eh bien, on l'a, par exemple, dans le Nouveau Testament. Monsieur, venez vous asseoir, attendez. Il y a ici des chaises qui ne servent à rien, une table qui est vide. Vous allez pouvoir vous mettre ici. Dans le Nouveau Testament, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun intérêt pour l'apparence de Jésus. L'unique intérêt pour l'image est un intérêt christologique, au sens où l'on parle de Christ comme de l'image de Dieu. La formule revient à quelques reprises, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4 en particulier. Bien. Il n'y a aucun intérêt pour une représentation picturale de Dieu. Conformément au commandement du Décalogue, on ne cherche pas à représenter le Dieu invisible. La seule image qu'on en a, c'est le Christ, et le Christ lui-même, on ne dit rien de la façon de le représenter. C'est une tendance qui est générale dans tout le christianisme des 3 ou 4 premiers siècles. Voyez, l'art des premiers chrétiens, qui se développe, il est vrai, dans des conditions très difficiles. Les chrétiens ne peuvent pas construire des monuments, des bâtiments de culte, parce qu'à tout moment, en fonction de l'hostilité du pouvoir impérial, ces lieux peuvent être détruits, ceux qui célèbrent le culte peuvent être persécutés. Quand bien même les persécutions ne surviennent pas tout le temps, elles interdisent l'établissement dans le paysage urbain. Eh bien, dans l'art des premiers chrétiens, on recourt à des symboles. Le symbole du poisson, le symbole de l'encre, qui désignera plus tard l'espérance, le symbole de la barque qui représente l'Église. Et puis plus tard, à partir du IIIe siècle, on trouve dans les catacombes des motifs qui reviennent toujours. C'est toujours les mêmes. On ne représente pas Jésus en tant que tel, mais on représente, par exemple, Jonas et sa baleine. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jonas, dans le ventre de la baleine pour 3 jours, est l'image du Christ qui est aux enfers pour 3 jours et qui en ressort. De même que Jonas sort vivant de la baleine, le défunt que l'on est allé mettre dans la catacombe sortira vivant quand au dernier jour, le Christ l'appellera. Donc, représentation de Jonas. Représentation du Christ aussi comme pasteur, c'est-à-dire comme berger. On le représente avec des brebis autour de lui, un agneau sur les épaules, parfois même avec une lyre. Et ce Christ qui est berger est représenté souvent sous les traits d'Orphée. Au IVe siècle encore, vous voyez un homme qui combattait toutes les hérésies. Dès qu'il reniflait une hérésie à gauche ou à droite, il intervenait, on a pu le comparer à un chien de garde de l'orthodoxie. Il s'appelait Épiphane de Salamine, dans l'île de Chypre, l'évêque de Salamine. Eh bien, Épiphane, orthodoxe au-dessus de tout soupçon, en vient à trouver scandaleux que dans une église, il y ait une image du Christ. Et voilà ce qu'il va faire. Je vous lis un petit épisode. Tel qu'Épiphane le raconte, il se rend pour prier dans une église de Palestine et là, il découvre une tenture, dit-il, pendue aux portes de cette église. Elle était teinte et brodée. Elle portait une image du Christ, une image, celle du Christ peut-être ou de quelques saints. Je ne sais même pas. Je me souviens plus suffisamment ce qui elle représentait. Après avoir vu ce sacrilège, que dans une église du Christ, contrairement à l'autorité des Écritures, était appendue une image humaine, j'ai déchiré cette tenture et j'ai conseillé aux gardiens de ce lieu d'en confectionner plutôt un linceul pour envelopper et enterrer la dépouille d'un indigent défunt. Alors, en compensation, il va leur donner une autre tenture, cette fois sans image. Voilà comment on réagit au IVe siècle contre la présence d'une image dans les églises. L'hostilité aux images, peut trouver ainsi son expression théologique dans la critique des images qui apparaissent comme qui apparaissent comme susceptibles de détourner l'attention du vrai culte, de détourner l'attention de Dieu. Et cette critique des images peut prendre des formes extrêmes, peut aller jusqu'à la destruction des images, ou pour employer le terme technique, jusqu'à l'iconoclasme, qui ne veut pas dire autre chose que destruction des images. Donc voilà une première attitude, hostilité aux images, présente dans le christianisme ancien en particulier. La deuxième attitude, c'est une attitude qu'on pourrait appeler attitude de respect, respect sacré. Alors, en allemand, on dirait Ehrfurcht, devant l'image. Parlons pas techniquement ici de vénération, d'adoration. J'aurai l'occasion brièvement de distinguer les deux concepts dans un instant. Voilà une attitude qui a son origine non pas dans la réflexion théologique, mais dans la piété. Vous savez, la théologie, c'est une pensée élaborée par des personnes, le plus souvent des hommes, qui essayent de traduire en termes intellectuels ce que la piété leur dit. Il n'y a pas d'abord un théologien qui part de rien et puis qui essaye de dire quelque chose, et puis ensuite une spiritualité, une piété qui se construit. C'est toujours l'inverse dont il s'agit. Il y a une piété qui vient d'un environnement, d'un milieu, et chacun d'entre nous, selon qu'il a baigné dans une enfance où les images sacrées étaient présentes ou étaient absentes, a probablement une piété ou une absence de piété tout à fait différente et propre. Eh bien, en l'occurrence, la piété précède la théologie et la théologie qui va défendre le respect sacré devant l'image puise son attitude dans des gestes tout concrets de piété. Piété envers les saints. Vous avez un saint, quelqu'un devant qui on ressent l'expression de de la sainteté, d'une présence mystérieuse et toute particulière de Dieu. Alors ce saint, on va chercher à en capter le pouvoir, par exemple en obtenant de lui une guérison, en le touchant. Dans l'Évangile, on voit qu'une femme cherche par exemple à toucher le manteau de Jésus pour en être guérie, et puis ça marche. Donc les proches de Jésus sont aussi, à des titres divers, porteurs de ce pouvoir thaumaturgique. Mais si le saint est porteur d'un pouvoir thaumaturgique, ses reliefs, ses reliques, après sa mort, le sont aussi. Et effectivement, on va conserver les reliques du saint, on va aller les vénérer, on va se déplacer jusqu'à elles. C'est ce qu'on appelle le pèlerinage, qui se met en marche très tôt. Au IVe siècle, il y a des pèlerinages qui sont attestés jusqu'à Jérusalem. Et le pèlerinage permet, disent les textes, parfois des miracles de guérison. Alors, on va toucher la relique du saint. Bien. Mais si on n'a pas de relique du saint, on va se contenter parfois d'une image du saint. On va toucher la peinture de cette image. On va parfois la gratter un peu pour prendre un peu de cette peinture qu'on va mettre dans un breuvage et puis on va consommer ce breuvage dans l'espoir d'être guéri par le saint. Voyez, le pouvoir du saint est considéré comme émanant aussi sur la représentation du saint. Alors, on a tel récit tout à fait rigolo où un méchant iconoclaste arrive dans une église et puis voit une statue ou une fresque représentant un saint, je ne sais plus. Et puis alors l'homme lance une flèche contre la statue. La flèche approche de la statue, ralentit, et au moment où elle allait se planter dans la statue, elle fait demi-tour et puis elle revient atteindre en plein cœur l'archer qui ne s'attendait pas à ce coup de boomerang. Mais c'est que, si l'on raconte cela, c'est qu'on considère que la statue, la représentation du saint, a un pouvoir. Donc, ce pouvoir de la représentation va ensuite permettre l'élaboration d'une théologie de respect de l'image. Et puis, cette attitude, c'est aussi le culte de l'image de l'empereur. L'empereur ne peut pas être présent partout dans son empire. Vous voyez, les hommes d'État aujourd'hui ont un très gros avantage sur les empereurs de jadis, c'est qu'ils peuvent, d'une certaine façon, être présents partout. Les amis français parlent parfois de leur omniprésident qui est présent sur tous les fronts. Mais on le voit tout le temps à la télévision, on le voit tout le temps dans les journaux. Présence partout du président. L'empereur ne peut pas être présent de cette façon-là. Donc, à défaut, on envoie l'image de l'empereur devant laquelle on va se prosterner comme si l'on se prosternait devant l'empereur lui-même. Voici par exemple ce que disait Athanase au IVe siècle. Dans l'image de l'empereur se trouve l'aspect et la forme de l'empereur, de sorte que celui qui se prosterne, en grec proskuneo, qui a donné ce terme technique, la proskinèse, l'agenouillement devant l'image, celui qui se prosterne devant l'image se prosterne aussi devant l'empereur en elle, car l'image est son aspect et sa forme. Bien. Alors, voici encore quelques termes. On appelle parfois iconophile ceux qui aiment les images. On appelle aussi iconodoule ceux qui se font les serviteurs des images. C'était un terme à l'origine péjoratif employé par les adversaires du culte des images, mais l'iconodoulie est devenu le terme courant pour désigner cette attitude de service, de respect, de soumission à l'image. Alors, de façon schématique, on peut dire qu'au sein du christianisme, l'orthodoxie, c'est-à-dire le christianisme oriental, de langue grecque d'abord, mais ensuite de langue slave, comme le catholicisme centré autour de Rome, récuse, du moins théoriquement, l'adoration de l'image en tant que support matériel. Aucun théologien ne défend qu'on adore la matière, l'image, en tant qu'elle est matérielle, qu'on adore le petit i en tant qu'il est réalité, chose en soi, mais préconise que la vénération de cette image renvoie à la vénération de cela que l'image représente, que ce soit le Christ, que ce soit Marie, que ce soit les saints. De son côté, la Réforme, et je vous en parlerai brièvement à la fin, refuse la vénération de l'image. Pour la Réforme, il n'y a pas de renvoi de l'image à ce que l'image représente. Mais l'image apparaît au contraire comme un écran, comme quelque chose qui est trompeur, un simulacre, dira Calvin, et qui me barre l'accès à Dieu. N'allons pas trop vite et regardons maintenant ce qu'on appelle la crise iconoclaste de Byzance. J'ai mis le mot « crise » entre guillemets parce que on appelle crise généralement un moment relativement bref dans lequel on n'entrevoit pas de solution. Je pense que ça pourrait être la définition de la crise. Si on entrevoit la solution à la chose qui nous oppresse, ça n'est pas une crise, mais c'est un problème. Et ce problème sera réglé dans telle ou telle direction. Moment de crise, c'est ce moment d'où on ne voit pas de solution. Or, ce qu'on appelle la crise iconoclaste à Byzance a duré de 726 à 847, 125 ans. 125 ans, c'est une période de controverse assez longue, mais c'est difficile de parler d'une période aussi longue comme d'une simple crise. C'est-à-dire que pendant cette période de plus d'un siècle, la controverse des images a été le débat théologique et même politique numéro un. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vénération des images? Et c'est autour de questions comme celle-ci que l'on s'est empoigné, et même assez vigoureusement. Alors, j'aimerais parler ici seulement du début de la controverse qui va nous conduire au Concile de Nicée, le deuxième Concile de Nicée, 787. Il y aura ensuite des rebondissements que je devrais laisser de côté. J'aimerais relever pour commencer deux difficultés et faire deux remarques. Première difficulté, on a affaire ici à quelque chose qui, vu de loin, apparaît précisément comme ce que les Latins aimaient bien appeler des querelles byzantines, c'est-à-dire des querelles entre des spécialistes qui se battent pour des choses sans aucune importance et qui n'intéressent personne d'autre qu'eux. On racontait que, et ça c'est des légendes qui courent en Occident, que les Byzantins avaient toujours suffisamment de salive pour disserter de la question du sexe des anges. Une question dont j'ai toujours cru qu'elle était sans aucune importance, jusqu'à ce qu'un prof de philosophie nous dise « mais c'est important la question du sexe des anges ». Dans la mesure où l'on vous dit que votre vie ici-bas dure un tout petit moment et que votre véritable vie est dans l'éternité, que vous serez des anges, sous quelle forme est-ce que vous serez ange? En d'autres termes, quelle forme corporelle aurez-vous? Donc la question du sexe des anges a son importance, et ce prof de philo m'a convaincu qu'on pouvait effectivement avancer des arguments dans un sens ou dans l'autre. Bon, il y a des querelles. Ces querelles dissimulent d'autres fractures. En l'occurrence ici, une fracture entre le pouvoir impérial et les moines. C'est parce que le pouvoir impérial s'en prend aux moines que les fronts se durcissent. Les moines sont favorables au culte des images. Le pouvoir impérial hostile aux moines qui prennent de plus en plus d'importance va être, lui, hostile au culte des images. C'est donc aussi un problème politique dont il est question ici. La deuxième difficulté dans tel sujet, c'est que, comme souvent, les sources sont celles du parti victorieux. En la circonstance, le parti victorieux dans l'orthodoxie, vous le savez bien, c'est le parti du culte des images, le parti iconodoule. Et le parti qui a perdu, ce sont les iconoclastes. Or, ceux qui gagnent détruisent systématiquement les sources de leurs adversaires. Et quand ils en parlent, ils ne cherchent pas l'objectivité, mais les décrivent toujours comme des méchants, comme des hérétiques, comme des juifs, comme des musulmans, comme des gens qui ne comprennent rien à rien. D'ailleurs, voyez, un empereur hostile au culte des images, Constantin V, a reçu dans la tradition grecque le délicieux surnom de copronyme. Alors, si on ne sait pas le grec, ben, c'est un mot savant qui fait bien comme ça, enfin copronyme. Mais quand vous dites ça en grec, ben, aussitôt, vous le voyez un petit peu rigoler parce que copronyme, c'est un mot grossier qui veut dire, alors pardonnez-moi de le traduire tel quel, mais c'est le mot que vous avez dans les dictionnaires, qui veut dire Constantin V au nom de merde. Bon, allez demander à vos amis grecs, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui savent le grec, si je me trompe, réagissez, mais je ne crois pas, c'est en grec une insulte. Eh bien, toujours est-il que cet empereur-là porte ce surnom, mais évidemment que c'est le parti des iconodoules qui a donné ce nom à cet empereur, ce merdeux de Constantin V qui a cassé des images. Donc, voyez, derrière ces mots apparemment savants, il y a toute la polémique du parti triomphant contre le parti qui a perdu. Et il faut dire que les historiens ont souvent été victimes de ces sources qui présentent l'iconoclasme comme une dangereuse nouveauté. Vous vous rappelez cette façon de lire les hérésies? C'est une nouveauté qui arrive dans l'Église. Eh bien, pas du tout. On sait aujourd'hui que l'Église des premiers siècles, comme je vous le disais, ne connaissait pas le culte des images. On est attentif au fait qu'au IVe siècle, quelqu'un de tout à fait orthodoxe comme Épiphane que je citais tout à l'heure est allé détruire une image dans une église. C'est donc plutôt la vénération de l'image qui est un phénomène nouveau. Et alors les sources officielles ont renversé les choses. Donc il faut, quand on aborde une question comme celle-ci, être conscient d'une telle difficulté. Deux remarques fondamentales que j'annonçais. La première, c'est que la crise iconoclaste s'inscrit dans le droit fil des controverses christologiques du Ve siècle, des controverses dont nous n'avons pas parlé ici, qui sont la conséquence des débats trinitaires du IVe siècle et qui portent en particulier sur la façon de savoir comment, en Jésus-Christ, s'articule le divin et l'humain. Vous voyez, c'est une chose de dire que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est une autre de dire il est venu dans le monde et il est devenu homme. Si l'on s'arrête là, tout va bien. Mais si maintenant on pose la question de savoir mais quelle est sa nature exactement, comment est-ce que le divin et l'humain s'articulent en lui? À partir de là, vous avez toutes sortes de raisonnements possibles. Tel homme, Apollinaire, a dit qu'en Jésus, il n'y avait pas d'âme, mais que c'est l'Esprit divin, le Saint-Esprit qui lui tenait lieu d'âme. C'est-à-dire que c'était un homme, un humain comme vous et moi, mais sans âme humaine, puisqu'il avait le Saint-Esprit. Puis d'autres ont dit, mais pas possible, il vient ici pour nous sauver, donc pour assumer la nature humaine. S'il assume seulement notre corps et pas notre âme, eh bien, il sauvera notre corps et pas notre âme. Donc, Jésus a une âme. Bon, alors on a condamné Apollinaire. Puis à partir de là, d'autres ont dit, mais en Jésus, la nature divine prend le dessus. Ce qui fait que la nature humaine est immergée dans la nature divine, un peu comme si vous mélangez deux liquides, après vous avez un seul liquide, eh bien c'est la nature divine qui prédomine, ce qui fait que le corps même de Jésus est divin. Et on a appelé cette façon de considérer l'unité de la nature divine en Jésus le monophysisme, en termes savants du grec, une seule nature, ou la doctrine qui préconise une seule nature. Il se trouve que le Concile de Chalcédoine, en 451, a condamné cette façon de voir les choses et a établi, et c'est ce qu'on appelle l'orthodoxie aujourd'hui, que ce soit en Occident et en Orient, a établi qu'en Christ, que dans la personne du Christ, il y avait deux natures, une nature humaine et une nature divine, qu'entre les deux natures, il n'y a pas de confusion, qu'il n'y a pas de séparation, et c'est ainsi que les choses ont été définies. Bien. Mais si vous définissez le Christ comme tel, avec deux natures, humaine et divine, la question va être de savoir ce que vous représentez quand vous faites une image du Christ. Et le raisonnement des iconoclastes, des adversaires forcenés de l'image, c'est celui-ci. S'il y a union des natures, union sans confusion, sans séparation, on est d'accord, mais les deux natures sont unies dans le Christ. Et si l'on admet que la nature divine n'est pas représentable, eh bien, Jésus-Christ lui-même n'est pas représentable. Et face à ce raisonnement, les iconodoules répondent au contraire qu'en s'incarnant, Dieu a bien voulu apparaître comme un humain. Il est apparu comme tout le monde. S'il y avait eu à cette époque-là un peintre envoyé par le roi d'Édesse, il aurait pu faire le tableau de Jésus. S'il y avait eu un reporter de Paris Match, il aurait pu prendre une photo. Dieu s'est incarné dans le monde, a pris les traits humains, s'est fait homme, donc à ce titre-là, est représentable. Et cette représentation, disent les iconodoules, peut servir de support à la vénération. Voilà donc une remarque fondamentale. Quand on parle de l'image, on est aussi ipso facto dans le domaine qui voit s'affronter des conceptions différentes sur la façon de comprendre la nature du Christ. Deuxième remarque fondamentale, ce qu'on appelle l'orthodoxie, au sens confessionnel du terme, hein, non pas la foi droite que tous revendiquent, mais l'orthodoxie historique comme le christianisme qui se développe dans l'est de la Méditerranée, autour du monde grec, et puis de Constantinople en particulier, et puis Byzance, et qui se développera ensuite jusqu'à Moscou et ailleurs, l'orthodoxie est définitivement établie avec le concile de Nicée II, 787. Bon, j'ai employé un adverbe que je n'aurais pas dû employer comme historien, je dis définitivement établi. Ben, après tout, on ne sait pas s'il y aura une fois un autre concile orthodoxe. Nicée II, 787, c'est le dernier concile écuménique que les églises orthodoxes reconnaissent. Alors, c'est vrai qu'elles sont aujourd'hui en train d'organiser un nouveau concile qui s'appellera le Grand et Saint Concile panorthodoxe, et le Centre orthodoxe de Chambézy a pour mission de coordonner les efforts en vue de l'organisation, c'est en face de chez toi, hein, coordonner les efforts en face de l'organisation de ce Grand et Saint Concile, mais ça fait à peu près deux ou trois générations qu'on est en train de discuter de l'ordre du jour du concile. Et on n'est pas d'accord sur l'ordre du jour. Donc si on ne peut pas avoir d'ordre du jour, on ne peut pas convoquer les gens. Et il y a de telles divisions entre les églises grecques et les églises russes en particulier qu'il est très difficile de mettre en place ce grand concile, ce saint et grand concile orthodoxe. Alors, peut-être que ce concile verra le jour dans la deuxième moitié du XXIe siècle. On n'en sait rien. Mais pour l'instant, le dernier concile, c'est précisément celui qui a Nicée en 787, à régler la question des images. Et voilà pourquoi l'image est aussi importante dans la spiritualité, dans la théologie orthodoxe. C'est parce que la question de l'image est arrivée comme ce qui permettait de clore les controverses sur la façon de concevoir la Trinité, les premiers conciles, sur la façon de concevoir la nature du Christ, les conciles du Ve siècle, et vient ensuite ce concile qui récapitule l'ensemble. À partir de là, dans la définition de l'image, les églises orthodoxes considèrent que la boucle est bouclée, hein, et que la théologie, d'une certaine façon, est achevée. La ligne directrice de la théologie orthodoxe en matière d'image, eh bien, on peut la trouver dans une phrase, toute simple, que je vous ai donnée tout en haut sur la feuille. C'est une phrase de Basile de Césarée, au IVe siècle, qui est celle-ci. L'honneur rendu à l'image transite vers le modèle. Vous voyez, l'honneur que je rends à l'image, petit i, cet honneur transite et transposé vers le modèle. Alors, dans le langage grec de Basile, c'est le prototype, le prototypos. Cet honneur est comme déplacé automatiquement vers le modèle de l'image. Basile parle ici de Christ en tant qu'image, en disant, si j'adresse ma prière au Christ, si je témoigne au Christ honneur et respect, eh bien cette prière, cet honneur, ce respect, transite vers le prototype, c'est-à-dire vers Dieu le Père. Et ce principe de Basile va être considéré comme valant également pour l'icône par rapport au Christ. À Constantinople, c'est l'empereur Léon III, le papa de Constantin V, qui va déclencher la crise en interdisant le culte des images. Parce qu'il y a des images ici et là. Hein, avant de peindre une image, pour peindre une image, pour vénérer une image, on ne va pas demander l'accord des théologiens. La chose se fait et ce culte des images se développe. C'est une action impériale qui détruit une image à la porte d'un palais, qui va déclencher une réaction. L'empereur dit ceci, « Oui, vénérons la croix, mais ne vénérons pas les images. »
Et c'est ainsi que, dans son palais, il remplace les images du Christ par une croix. Il dépose le patriarche de Constantinople, qui n'est pas d'accord avec lui, et il en nomme un autre. C'est le système politique que nous avions appelé, il y a 2 semaines, le césaropapisme. Hein, c'est l'empereur qui nomme le pape, donc en l'occurrence le patriarche de Constantinople. Ça provoque un grand scandale parmi les moines, et pour condamner définitivement, croit-il, le culte des images, Constantin V, dont j'ai parlé tout à l'heure, convoque un concile à Hiéréa en 754, dans laquelle on considère que l'image du Christ est impossible et qu'en l'occurrence, il ne faut pas représenter plastiquement le Christ. Parce que soit on le représente seulement dans sa nature humaine, mais à ce moment-là, on sépare les deux natures. Or, le concile de Chalcédoine nous a dit que ces deux natures sont unies. Elles sont ensemble, sans séparation. Donc, représenter le Christ uniquement dans sa nature humaine, c'est se montrer infidèle au concile de Chalcédoine. Et si on représente les deux natures ensemble, eh bien, on risque de circonscrire la nature divine dans une représentation. Or, cette nature divine est par définition hors de toute circonscription. Je ne peux pas enfermer la nature divine dans un cadre. Donc, ce raisonnement est parfaitement clair, parfaitement logique. On est dans une aporie et il est donc interdit de représenter le Christ par une image. On n'a pas beaucoup de textes théologiques iconoclastes. Je vous ai donné tout de même un petit exemple ici, puisque ces textes ont été détruits et qu'il faut aussi leur donner la parole. Voilà un poème iconomaque qui fait la lutte aux images, qui date d'après 726. Moïse a clairement détruit les princes par ce signe. Il s'agit du signe de la croix. Et il a vaincu l'ennemi. Maintenant, la gloire des fidèles, la croix, a arrêté le puissant torrent de l'erreur. C'est ici que l'image artificieuse qui perdait la vie des âmes, conçue, arme cachée par une inspiration inique, a été totalement supprimée. Ainsi doivent penser ceux qui connaissent le Christ. L'image perd la vie des âmes. Bien. Et c'est ce qu'on dit au concile de Hiéréa de 754. Mais dès le lendemain de ce concile, on va se mettre à persécuter les moines qui n'acceptent pas cette décision. De leur côté, les iconodoules lisent en cachette, reproduisent les textes de Jean Damascène, qui est considéré par les orthodoxes comme le dernier des pères de l'Église, après les grands pères de l'Église, sans mettre de trait d'union, du 3e, 4e siècle, 5e siècle, vient enfin Jean de Damas, qui est né autour de 655 et qui est mort un siècle plus tard, en 750, qui dit ceci, lettre C, « Je ne fais pas d'image de l'invisible divinité, mais bien de la chair de Dieu qui a été vue. Tu le vois, partout c'est la même visée, éviter qu'on adore la création en même temps que le Créateur, et que l'on offre les prosternations, les proskinèses, de celui qui adore à d'autres que le seul auteur du monde. » Pour Jean de Damas, la vénération de l'image n'est pas à considérer sur cette ligne-là. Je ne vénère pas la réalité de l'image, je vénère à travers l'image cela à quoi l'image me renvoie. Et l'image est une fenêtre qui ouvre vers une autre réalité. Plus loin, c'est sous cette forme sensible, nous exposons partout ses traits et nous sanctifions par là le premier de nos sens, ce qui est en effet la vue. De même que par les discours, nous sanctifions l'ouïe. La vue, comme premier des sens, c'était ce que considéraient traditionnellement les anciens. C'est le sens le plus noble, c'est celui qui permet de percevoir les objets les plus éloignés. Eh bien, de même que l'on peut entendre la parole, on peut également voir le Christ. De même que l'on peut entendre la parole qui va me conduire à Dieu, on peut représenter une image qui va me permettre aussi d'accéder à Dieu.